Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Bleu, Histoire d'une couleur, Michel Pastoureau propose un essai d'histoire culturelle consacré à la trajectoire du bleu dans les sociétés européennes. L'objet paraît familier. Mais l'enquête renverse une évidence moderne aujourd'hui largement désignée comme la couleur préférée en Europe, le bleu a longtemps été secondaire. Mal identifié ou jugé peu valorisant dans l'Antiquité gréco-romaine. L'auteur ne cherche donc pas une signification intemporelle du bleu. Il examine comment des sociétés successives l'ont nommé, produit, porté, représenté et chargé de valeur. Son approche croise l'histoire de l'art, des textiles et des techniques de teinture, la religion, les normes vestimentaires, les emblèmes et les usages politiques. Du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, le livre suit une ascension progressive. Le bleu devient couleur mariale et royale, puis une teinte plus accessible, associée aux uniformes, aux vêtements quotidiens et à des idées de modération. Cet essai montre surtout que voir une couleur est aussi apprendre culturellement à la classer et à l'interpréter. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le bleu antique, une couleur marginale plutôt qu'une évidence universelle. Le point de départ de Pastoureau est essentiel, les Grecs et les Romains ne plaçaient pas le bleu au centre de leur système de valeurs chromatiques. Cela ne signifie pas qu'ils étaient incapables de percevoir les tons bleus, mais que cette couleur disposait d'un statut faible dans les usages. Les mots et les représentations sociales. Elles pouvaient être associées à l'altérité, notamment aux peuples dits barbares, ou apparaître moins prestigieuses que le blanc, le rouge et le noir. Cette situation oblige à se défaire d'une lecture anachronique selon laquelle le ciel ou la mer auraient naturellement fait du bleu une couleur majeure dans toutes les civilisations. Pour l'auteur, les catégories de couleurs ne sont jamais réductibles à une donnée physiologique, elles dépendent du vocabulaire disponible. Des matières que l'on sait travailler, des hiérarchies symboliques et des pratiques visuelles d'une époque. L'Antiquité sert ainsi de contre-exemple à l'idée d'une préférence humaine stable, en rappelant la faiblesse relative du bleu ancien. Pastoureau établit le problème directeur de son ouvrage, comment une teinte longtemps périphérique a-t-elle pu devenir, en Europe, une référence si consensuelle. Cette perspective replace l'histoire des sensibilités au cœur de l'histoire sociale. Deuxièmement, le Moyen-Âge transforme le bleu grâce aux images religieuses. Au prestige royal et aux étoffes, la valorisation médiévale du bleu constitue le grand tournant décrit par le livre. À partir du XIIe siècle, les évolutions religieuses et artistiques contribuent à lui donner une visibilité et une dignité nouvelles. Dans les vitraux, les enluminures et la peinture, la couleur devient un moyen important d'ordonner les images et de magnifier le sacré. L'iconographie de la Vierge, progressivement vêtue de bleu dans de nombreux contextes, participe fortement à cette élévation symbolique sans épuiser à elle seule le phénomène. Parallèlement, les pratiques de cour et les vêtements aristocratiques font du bleu une couleur de distinction. Le bleu royal s'impose peu à peu dans l'imaginaire politique et héraldique. Pastoureau insiste sur le fait que ces changements ne relèvent pas d'une simple mode esthétique. Ils dépendent aussi des possibilités offertes par les teintures, de la circulation des étoffes et des règles qui encadrent le luxe vestimentaire. Une couleur ne gagne donc pas en importance uniquement parce que des artistes l'apprécient, elle doit être matériellement disponible. Socialement visible et compatible avec les valeurs dominantes. Le bleu médiéval devient ainsi le produit d'une convergence entre technique, dévotion, représentation du pouvoir et hiérarchie sociale. Troisièmement, Guède. Indigo. Et teinturie, la matière colore aussi les rapports économiques. L'ouvrage accorde une place décisive aux conditions matérielles de fabrication du bleu. Pastoureau rappelle qu'une couleur n'existe socialement que si des pigments ou des teintures permettent de l'appliquer durablement sur des supports précis, murs, images, objets. mais surtout textile. L'histoire de la guède, souvent appelée pastel dans le domaine tinctorial, puis celle de l'indigo, montre que les couleurs sont liées au commerce, au savoir-faire artisanaux et aux rivalités économiques. Produire un bleu stable, intense et reproductible demande des procédés techniques, des matières premières et des circuits d'approvisionnement. Ces contraintes influencent directement les usages et le prix des étoffes. L'arrivée et l'essor de l'indigo modifient cet équilibre en offrant une teinture très efficace, tout en fragilisant certaines productions européennes fondées sur la guède. Le bleu ne doit donc pas être étudié comme un symbole détaché des réalités du travail. Les débats sur les teintures, les protections de métiers et la concurrence entre produits révèlent que les valeurs chromatiques se fabriquent au croisement de l'économie et de la culture. En intégrant ces aspects, Pastoureau évite de réduire l'histoire des couleurs à une galerie d'œuvres d'art ou à un répertoire d'associations psychologiques. Il restitue les artisans et les techniques comme des acteurs de la transformation du goût collectif. Quatrièmement, du contraste avec le rouge à la recomposition du système européen des couleurs, parler du bleu conduit constamment Pastoureau à parler des autres couleurs. Sa valeur ne se fixe pas isolément, elle résulte de rapprochements, d'opposition et de concurrence au sein d'un système chromatique. Le rouge est son interlocuteur principal. Longtemps plus prestigieux, plus visible et plus chargé de force, de richesse ou de pouvoir, il constitue le rival contre lequel le bleu conquiert progressivement une place. Le blanc, le noir, le vert et le jaune interviennent également dans des classements variables selon les périodes et les domaines. Cette méthode relationnelle permet de comprendre pourquoi l'ascension du bleu n'est pas linéaire. Elle accompagne la modification des codes vestimentaires, des sensibilités religieuses et morales, ainsi que des conventions artistiques. Dans certaines périodes, par exemple, l'affirmation de vêtements sombres et de formes de sobriété peut favoriser le bleu au détriment des teintes plus éclatantes. Le livre montre ainsi que les catégories chromatiques européennes passent d'organisations où quelques pôles dominent à des répartitions plus diversifiées. L'enjeu dépasse l'histoire d'une nuance particulière, il s'agit de comprendre comment une société construit des oppositions visuelles pour exprimer le rang, le genre, le deuil, la fête, l'autorité ou la vertu. Le bleu devient éligible par la place mouvante qu'il occupe dans ce réseau de différences. En dernier lieu, le bleu contemporain uniforme. Genre et idéal de consensus politique, dans la période contemporaine, le bleu atteint une diffusion et une acceptabilité sans précédent. Pastoureau examine cette consécration à travers des usages concrets uniformes, drapeaux, vêtements de travail puis de loisirs, et notamment l'expansion mondiale du jean. Cette banalisation n'efface pas la symbolique, elle la recompose. Le bleu peut renvoyer à l'État et à la nation, à la discipline des institutions, mais aussi à une forme de neutralité rassurante, dans les codes politiques européens modernes. Il a pu être mobilisé contre le blanc monarchique, avant d'être fréquemment associé à des positions modérées ou conservatrices selon les contextes. Il figure aussi dans l'imaginaire de l'Union européenne et des forces de maintien de la paix. Ses attributions ne sont ni fimix ni universelles, elles dépendent des pays, des époques et des systèmes de signes en concurrence. C'est précisément la prudence méthodologique du livre. Au lieu de décréter que le bleu signifie naturellement le calme, la confiance ou la paix, Pastoureau observe comment ces associations se sont imposées par les institutions, les objets et les habitudes. Sa popularité actuelle apparaît alors comme le résultat d'une longue histoire de disponibilité matérielle, de visibilité quotidienne et de dépolitisation relative. Le bleu contemporain incarne moins une essence qu'un compromis culturel largement partagé. En conclusion, bleu. Histoire d'une couleur s'adresse aux lecteurs d'histoire culturelle, d'histoire de l'art, de mode, de design et de symbolique. Mais il reste accessible à ceux qui n'ont pas de formation spécialisée. Son principal bénéfice intellectuel est de modifier le regard porté sur un élément quotidien. Après cette lecture, une étoffe bleue, un uniforme, un vitrail. Un drapeau ou un jean ne sont plus seulement des objets visuels, ils deviennent les traces de techniques, de normes et de choix collectifs accumulés au fil des siècles. Le livre intéressera également les personnes qui travaillent sur les images, les marques ou les codes de communication, car il rappelle utilement qu'aucune association chromatique ne peut être tenue pour universelle ou éternelle. Ce qui le distingue d'un ouvrage général sur la signification des couleurs est sa méthode historique concrète. Pastoureau ne propose pas un dictionnaire de symboles détaché des contextes. Il suit les transformations du bleu dans les pratiques religieuses, artistiques, vestimentaires, économiques et politiques. Il relie ainsi le prestige du bleu médiéval aux images et aux cours, son extension aux conditions de la teinturerie, et son triomphe moderne aux institutions comme aux vêtements ordinaires. Cette articulation entre culture matérielle et imaginaire social donne au livre sa force. Premier volet d'un ensemble consacré aux couleurs en Europe. Il offre à la fois une enquête autonome et une introduction solide à l'idée centrale de l'auteur, les sociétés ne se contentent pas d'interpréter les couleurs. Elles organisent les conditions même de leur importance. Si vous souhaitez soutenir Michel Pastoureau, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.